Il y a ces deux ailes de l'oiseau. Le Bouddha a donné l'image des deux ailes de l'oiseau qui permettent à un chemin spirituel J'aime pas tellement le mot efficace, mais enfin, j'en trouve pas de meilleur, d'être efficace. De vraiment permettre au corps et à l'esprit de réaliser ce qui est réalisable. Et l'une de ces ailes, c'est la sagesse, et l'autre, c'est la bienveillance ou la compassion. Et la sagesse, elle agit dans le sens du lâcher-prise. Je découvre le non-moi, je lâche prise du moi. Et pour lâcher prise du moi, il n'y a qu'un chemin, c'est celui de la pleine conscience. La pleine conscience qui est sans préférence, l'équanimité. Et c'est un peu froid parce que j'observe mon corps comme un corps, mes émotions comme des émotions, mes pensées comme des pensées, ma conscience comme une conscience. C'est extrêmement profond, extrêmement libérateur, mais c'est réchauffé par la compassion qui fait que le cœur est également mobilisé. Il y a une empathie avec l'expérience. Je la ressens en tant qu'agréable, désagréable et neutre. Et quand l'expérience est relativement neutre, je m'ouvre à elle. Je l'apprécie, je l'accueille vraiment. Il y a cette empathie. Je ne fais pas que l'observer un peu à distance avec plus ou moins de contrôle ou de manipulation. Et la bienveillance, comme je le disais tout à l'heure, elle est forcément là quand je fais œuvre de sagesse, c'est-à-dire que quand j'observe ma main comme une main, là, il y a de la bienveillance. Il y a quelque chose qui est forcément dans l'intimité de l'expérience, et quand je suis dans l'intimité de l'expérience, le chemin de purification se creuse. Mais nous avons des habitudes, ce qu'on appelle des blind spots, des endroits aveugles dans la structure de la personnalité, avec des schémas répétitifs qui font qu'inconsciemment, et nos attachements les plus dangereux, c'est ceux que nous ne voyons pas. Ceux qu'on voit, ils nous font mal, mais c'est bon, ils sont déjà presque bons. Mais ceux qu'on voit pas, heureusement, ils nous font pas mal, mais ils sont drôlement là. Et ces endroits aveugles font que j'ai l'impression que je suis vraiment en train de voir cette main qui a de la bienveillance, mais que dans l'énergie avec laquelle je me lie au monde, il y a encore beaucoup, beaucoup d'aveuglement. Et l'aveuglement se traduit par une forme de dureté ou par une forme d'exigence ou d'inquiétude ou ce désir perpétuel que ce soit autrement, qui est plus. Et alors nous avons cette pratique qu'on appelle le metta directif ou les paroles de bienveillance directive et qui aident à pouvoir accueillir les choses telles qu'elles sont. Et c'est une aide extrêmement précieuse parce que dans l'exercice de la méditation, nous souhaitons lâcher prise, mais ça n'est pas pour tomber. C'est au contraire, pour être tellement pleine que je peux tout lâcher. Et ce qui nous empêche de lâcher, c'est c'est l'ignorance, mais l'ignorance s'extériorise ou se manifeste par la peur, par le rejet et le désir. Donc, nous soignons le moi, ce qui est limité, vulnérable, inaccompli, en tout cas partiellement. Nous lui souhaitons. Et pas seulement à nous, mais à l'autre. C'est tout différent lorsque nous avons peur pour nos proches de croire complètement à mes constructions et de les laisser vagabonder à gauche, à droite, au milieu, en haut, en bas. Ou bien de sentir l'inquiétude et simplement de proposer des paroles de bienveillance. Les paroles de bienveillance ne sont pas un antidote magique, ni pour moi, ni pour l'autre, mais c'est ce qui fait que je peux m'ancrer dans la confiance. Et la confiance dans les limites de l'autre aussi. C'est des fois plus facile d'avoir confiance dans nos propres limites et dans nos propres aveuglements que dans l'aveuglement de l'autre. Mais l'autre, il fait son chemin sur cette terre, on peut lui laisser son temps. Et si je m'inquiète et que ça me permet vraiment de faire quelque chose qui soit adéquat, ok, l'inquiétude a une valeur, mais les trois quarts du temps, l'inquiétude, elle ne me permet absolument rien de faire. Elle me bouffe la vie. Et quand je sens cette énergie d'inquiétude, qu'est-ce que c'est différent si je pense à venir, que je sois heureuse, que je sois en paix? Que je sois libérée de l'inquiétude. Il y a un danger dans les paroles de Metta. Mais ce n'est pas vraiment un danger, mais disons c'est quelque chose qui devient assez clair lorsque nous pratiquons. Au début, nous allons le faire forcément avec une volonté que l'énergie tire-toi. Que je sois libérée de l'inquiétude, que je tire cette inquiétude, que je sois libérée de l'inquiétude, que je tire. C'est ok, mais peu à peu nous arrivons à voir, ah ouais, j'emploie Metta un petit peu parce que j'ai pas trop envie de ce truc-là. Et comme nous le travaillons en même temps que le Vipassana, et que parfois nous abandonnons nos paroles de Metta, c'est pas quelque chose que nous mettons en place toute notre vie, nous pouvons le faire pendant des temps plus ou moins longs, mais après ça s'équilibre avec le Vipassana. Donc après je reviens à l'inquiétude telle qu'elle est, et parce que je l'ai nommée, c'est déjà tout autre chose de dire que je sois libérée de l'inquiétude. Ça veut dire que je me suis déjà donné l'espace de l'avoir, plutôt que d'être que dans l'histoire, que dans le pourquoi je suis inquiète. Et quand je me dis longtemps que je sois libérée de l'inquiétude, et je prends l'inquiétude, mais prenez ce qui pour vous émerge dans l'instant, ça peut être la colère, le ressentiment, la frustration, le jugement. L'énergie du jugement est puissante, de la culpabilité, l'angoisse. Quand je le dis souvent, c'est une manière de l'apprivoiser. C'est une manière d'entrer en amitié avec ces énergies-là. Nous avons à nous souvenir que la méditation n'est pas un nivellement de la danse du monde. L'inquiétude n'est pas une tare ou une erreur, c'est une énergie qui émerge et qui peu à peu perd sa puissance parce que je me souviens que le problème n'est pas l'inquiétude. Le problème, c'est comment je me lie à elle. Et tout l'exercice de la méditation n'est là que pour trouver une manière sage de me lier à l'instant. Avec cette puissance de la pleine conscience qui fait que l'expérience n'a plus un impact envahissant sur la conscience, elle est une occasion pour que le corps et l'esprit grandissent, ou plutôt pour que la conscience devienne prioritaire sur l'expérience. Donc, c'est important de s'exposer. La méditation, ça n'est pas vivre petit ou ne pas vouloir voir. C'est un travail sans répit, d'une certaine manière, mais qui est bon parce que c'est pour ça que nous sommes là. Et l'exercice de métta emploie la pensée de manière adéquate, au lieu que nous soyons toujours perdus dans le moi qui veut ci, qui veut ça, qui projette, qui regrette, qui imagine. La pensée se lie à la volonté, ou plutôt à l'orientation consciente de présence. Et alors nous pouvons entrer de plus en plus dans l'attention pure. Nous sommes de moins en moins immédiatement projetés dans ce que je pense des choses et de moi-même. Et nous pouvons de plus en plus voir « Ah ouais, il y a ça. Ah tiens, il y a de la... Ah tiens, je me suis fait agresser. Ah ouais, là, il y a une sorte d'hostilité. Ah, c'est pour ça qu'il y a toutes ces pensées, cette tension que je sens là ou là. » Ok. Que je sois heureuse, que je sois en paix. Nous n'osons pas laisser émerger les énergies de l'ombre parce que nous avons été tellement bien éduqués par rapport à ce qui est bien et ce qui est mal. Tu dois aimer ton prochain. C'est terrible. En tout cas, moi, j'aimerais pas être aimée par quelqu'un qui dit « Ah ouais, je dois aimer mon prochain. » C'est horrible. Le seul moyen de faire émerger ces qualités du cœur, c'est d'oser les voir en face. Et que j'ose les voir en face avec le désir d'en être libérée pour faire un clin d'œil au moi, ou que je les vois en face avec sagesse, comme le son de la cloche, tiens, il y a la version qui est arrivée, ok, elle est en train de vivre, on verra quand c'est qu'elle passe. Je fais œuvre du même travail de purification. Il y a des petites histoires, c'est un petit bouquin qui s'appelle « Lettre à Dieu », et je trouve ça tellement joli parce que les enfants n'ont aucune crainte de détester cordialement, d'aimer totalement. Ils savent que ça, c'est pas vraiment vrai. Ils savent que c'est, puis après il y a autre chose, puis après il y a encore autre chose. C'est déjà une petite histoire, j'en ai prié quelques-unes. C'est un petit Matthieu qui dit « Cher Dieu, je pense que ça doit être dur pour toi d'aimer les gens du monde entier. Dans ma famille, on est quatre. » Et je n'y arrive pas. Et puis, un petit Jules qui dit « Cher Dieu, peut-être que Cain n'aurait pas tué Abel s'ils avaient eu chacun leur chambre. Avec mon frère, ça marche. Et puis Antoine qui dit « Cher Dieu, s'il te plaît, envoie Guillaume Petit dans une autre colonie de vacances cette année. Merci d'avance. » Et Charlotte qui dit « Cher Dieu, si on doit revivre dans quelqu'un quand on est mort, je veux pas que ce soit dans Myriam Redier, parce que je la déteste. » Et puis Romain. Cher Dieu, merci pour mon petit frère, mais t'as pas bien écouté mes prières. J'avais demandé un petit chien. Cher Dieu, c'est cool que tu aies fait des religions différentes, mais est-ce que tu te trompes pas de temps en temps? Et puis Pauline qui dit, cher Dieu, au lieu de laisser mourir les gens pour en faire d'autres, pourquoi tu gardes pas déjà ceux, pourquoi tu gardes pas ceux qu'on a déjà? Nous pouvons donc laisser être notre cœur d'enfant, non pas au quotidien. Au quotidien, soyez, cultivez le bien, évitez de faire le mal. Mais dans l'exercice de la méditation, laissez être votre cœur d'enfant. C'est la confiance. C'est ça la confiance. Et c'est profondément purificateur. Parce que nous nous rendons compte alors que nous sommes dans ce monde, mais que nous n'appartenons pas à ce monde. Ou en tout cas pas seulement à ce monde. Et avec l'exercice de la bienveillance, nous développons la compassion, c'est-à-dire que quand l'expérience est douloureuse, nous pouvons venir avec l'ouverture. Ah ouais, je suis sensible à ma peine, je sens mes limites juste maintenant. Je peux rester en silence avec cette douleur qui est là. Et je peux souhaiter d'être libérée. Non pas de cette danse du monde où il y a le jour et la nuit, mais que je sois libérée de l'aveuglement, de la réactivité à cette danse-là. Et puis quand l'expérience est belle et bonne, vous pouvez venir avec une réelle appréciation. Quelquefois on a peur de vraiment apprécier l'expérience. C'est intéressant. Et quand c'est chez l'autre que l'expérience est bonne, ça peut faire peur. Puis moi. C'est Montaigne qui disait, il y a quelque chose qui ne nous gêne pas tout à fait dans le malheur de nos amis. Et pouvoir vraiment laisser venir la joie, ça fait partie de l'exercice de la méditation. C'est ce qui crée, c'est ce qui développe l'équanimité, c'est ce qui développe le fait, la confiance où je peux accueillir tout avec la même ferveur. Et alors il y a une racine du mal sur cette terre qui commence à lâcher prise. C'est cette idée, et nous en sommes porteurs, observée plus souvent qu'on ne croit, que certaines vies ont plus d'importance que d'autres. Quand je me compare, que je me mette en dessus ou en dessous, peu importe, quand je me compare, c'est comme si certaines vies avaient plus d'importance que d'autres. Je ne suis pas assez, ou l'autre n'est pas assez. Dans le Dhammapada, c'est un des écrits du Bouddha, il est dit « La bienveillance nous donne la capacité d'aimer et de bénir tout ce qui se trouve devant nous. C'est une liberté et un bonheur sans raison particulière. » Qui se suffisent à eux-mêmes. Si le cœur est ouvert, l'amour apporte un esprit généreux à chaque instant et à chaque rencontre. Il n'y a pas d'épreuve ou de difficulté qu'assez d'amour ne puisse surmonter, aucune distance qu'assez d'amour ne puisse parcourir, aucune barrière qu'assez d'amour ne puisse dépasser. Et dans la tradition chrétienne, il parle de trois sortes d'amour. Le eros, qui se développe beaucoup dans la méditation. Les choses semblent belles. L'autre jour, j'enseignais à Vevey, et puis il y a une des participantes qui m'a dit il y avait un bouquet de fleurs. C'était aussi des tournesols, c'était des tournesols un peu plus gros que ceux-là. Puis une participante qui me dit oh, mais je suis en face de ce bouquet de fleurs, mais il me paraît tellement beau, je ne peux plus rien écouter de ce que vous dites. Je trouvais ça beau. Et c'est vrai que le eros, le plaisir de la rencontre, il est grandi lorsque nous arrêtons d'être toujours dans le mental. Le plaisir du monde, c'est la première forme d'amour. C'est pas seulement la sexualité, c'est tous ces plaisirs des sens qui font que au moment où il y a ce contact là, quelque chose s'arrête. Si vraiment je regarde un coucher de soleil et que je fais je suis arrêtée. Et l'autre, c'est ce qu'on appelle philia, c'est-à-dire l'amour interrelationnel, où le cœur est ouvert, mais il est ouvert par rapport à certaines personnes et pas par rapport à d'autres, ou plus par rapport à certaines personnes que par rapport à d'autres. Il a aussi un partage interrelationnel où on est proche, où on est ensemble à faire quelque chose ou à ne rien faire. C'est bon. Et là aussi, dans l'exercice de la méditation, cet interrelationnel se pose. Et là, le dernier aspect qui s'appelle agapé, c'est l'amour inconditionnel. C'est vraiment ce lien au silence. Si la conscience a vraiment un lien au silence, c'est pas possible que l'autre soit autre chose qu'un frère. Faites l'expérience. Si juste maintenant je me lie à l'espace et au silence, quelque chose fait que nous sommes ensemble. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de conflit, mais au lieu que le conflit soit contre, il devient avec. Nous sommes extrêmement proches des personnes avec lesquelles nous avons des problèmes. Je crois que je vais m'arrêter là.